Et tout de suite, donc, bonjour Christian Giudicelli, c'est traitement de texte.
Bonjour Colette.
Affaires de famille, plus ou moins acides, plus ou moins cruelles, plus ou moins douloureuses, plus ou moins dramatiques. Eh bien, ces affaires de famille sont au programme de notre émission avec nos trois auteurs d'aujourd'hui. Corinne Hooks pour Le Grand Menu, publié aux éditions de l'Olivier. Joël Schmitt pour Je changerai vos fêtes en deuil chez Albin Michel. Et Jean-Noël Pancravi, qui est donc à l'honneur pour cet après-midi de France Culture, pour René Camps, publié chez Gallimard. Trois acteurs seront avec eux pour nous faire découvrir un extrait de leur livre, Garance Clavel, Bruno de Volder et Gérard Lartigot. Nous commençons par vous, Corinne Hooks, dont Le Grand Menu est le premier roman. Vous êtes jeune, bien sûr, mais moins que votre narratrice, qui, elle, est une enfant, une petite fille, qui vit dans une grande demeure entre ses parents, des parents qu'elle observe à sa manière avec une acuité insolite. Eh bien, écoutons-la d'abord. Garance Clavel lui prête sa voix.
Papa et maman, ce ne sont pas leurs vrais noms. Ce sont des noms qu'on donne, qu'ils disent, qu'il faut donner. Ils soutiennent être mes parents. Je n'y connais rien aux parents, mais je sais que ce n'est pas eux. Il y a les voix, les gestes, les yeux, les obstacles dans les yeux, les ombres qui se cabrent et refusent de suivre. Je ne suis pas l'enfant de ces gestes, de ces voix, de ces yeux, ni de cette maison et de ces meubles. Je ne dis rien, ce sont des gens puissants, jaloux, terribles. Je dois rire de leur rire, trembler de leur colère, goûter leurs beaux propos sucrés. Mais il y a un tremblement, un cri urgent qu'il faut taire. Mes parents n'existent pas, ils se tiennent dans un lieu que je ne peux pas connaître. Leurs visages sont perdus, ils sont imaginaires. Leur beauté est terrible et toujours imprenable. Mais ils sont vrais et forts, comme des personnes vivantes. Je veux les retrouver, même s'il ne reste que des peaux mortes, même si tout ce qui survit est pris dans une tromperie, et moi aussi, lié à ceux qui ont façonné le mensonge. Je veux qu'il y ait une histoire, des parents dans une chambre qui se penchaient, confiants, sur un berceau bleu. Et papa et maman sont entrés une nuit en brisant la fenêtre et ont enfoncé le couteau. Cela s'est fait très vite et il n'y a pas eu de lutte. Ensuite, papa et maman ont très soigneusement découpé les visages au moyen de ciseaux, aux longues lames fines, et les ont cousues sur les leurs comme des masques, sans faux plis ni coutures. Ils les portent depuis avec un grand naturel et tout le voisinage est dupe. Mais les yeux restent leurs yeux. Et je vois vaciller une lueur de bête. Papa et maman n'ont rien à voir avec les voisins, ni avec les gens qu'on croise dans la rue, ni avec l'épicier, le boucher ou le boulanger, ni avec aucune des personnes de la famille, oncle, tante, grand-mère ou cousin, ni avec le bourgmestre, ni avec les ministres, ni même avec le roi. Tout ce petit peuple est sans commune mesure avec papa et maman. Tous d'ailleurs sont un peu risibles. Il vaut mieux en rire, disent papa et maman. Papa et maman sont tout. Ils sont le seul modèle. Ils sont le monde entier.
Corinne Hooks, donc, c'est une petite fille qui parle. Vous lui donnez un langage très particulier, qui n'est effectivement pas le langage adulte, mais qui n'est pas non plus du tout le langage petite fille, qui en général, ou petit garçon, qui est toujours une caricature. Alors là, c'est tout le contraire de la caricature. On sent que c'est, à l'inverse, quelque chose qui est très, très méticuleusement mis au point.
C'est le langage dont elle pourrait disposer si elle avait nos mots. Oui. C'est son regard d'enfant que j'essaie de retrouver, mais en lui donnant à disposition le vocabulaire dont...
Oui, c'est un vocabulaire très étendu pour son âge, évidemment. Son âge n'est pas précisé, mais enfin, c'est une petite fille.
Je ne souhaite pas le préciser, je crois qu'il faut laisser ça...
C'est l'idée de l'enfance, en fait, de l'enfance.
Voilà, de l'enfance, oui.
Et alors, le premier mot, les premiers mots de ce livre, c'est... Je ne sors pas. Et en fait, on est très frappé par l'atmosphère d'enfermement qu'il y a. Et c'est, au fond, c'est un drame ou une comédie, disons. une tragicomédie qui se joue entre deux personnes, des adultes, le père et la mère, papa, maman, et la petite fille. Et c'est dans un lieu clos, qui est une grande demeure, quelque part en Belgique, n'est-ce pas? Oui. J'ai vu qu'on mangeait des spéculoos.
Ah oui, c'est clairement à Bruxelles, par voilà. plusieurs indices, oui, oui.
Bon, donc cette idée d'enfermement, ça vous a paru effectivement centrale pour
l'univers d'enfant. Oui, c'est le postulat de départ, oui. Oui, le postulat de départ est qu'elle est enfermée. La maison symbolise un enfermement qui est un enfermement psychologique aussi, qui est un enfermement opéré par ses parents sur tous les points de vue. Elle est enfermée dans leurs peurs et dans leurs angoisses qu'ils lui font endosser. Mmh. Et la maison symbolise cela physiquement.
Alors que ses parents, au fond, ça a l'air de bons parents, a priori, hein. Oui. La mère dirige un magasin, elle est très à l'aise, c'est une femme forte, dit la petite fille. Et le père, lui, c'est une espèce de bûcheron en chef, j'ai l'impression. Hein, il a une entreprise.
Le tranchage de bois.
Trancheur de bois.
Oui, absolument.
Je ne savais pas que cette profession existait.
Oui, ce sont de bons parents, ce sont des parents pleins de bonnes intentions, des parents comme tout le monde.
Oui, ils donnent des petites fessées de temps en temps, mais enfin, ce n'est pas très grave. Oui. C'est plutôt gentil. Oui. Et ils l'aiment donc.
Ils aiment qui?
Ils aiment leur petite
fille.
Ils croient l'aimer, en tout cas.
Oui, c'est leur notion de l'amour, quand même. Oui. Évidemment, la petite fille ne s'en contente pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans la très belle lecture que nous venons d'avoir, il y a une... Elle substitue un fantasme à ce qui lui est donné. Elle s'imagine que ses parents ne sont... Enfin, ceux qui sont là ne sont pas ses vrais parents et ont tué les vrais. C'est ce qui la sauve un peu de cet enfermement. Ça lui donne une ouverture sur un ailleurs et sur une quête aussi.
On va penser, d'ailleurs, que la plupart des enfants ont ce sentiment que les parents qui nous sont donnés ne sont pas exactement, pas forcément ce qu'on souhaite, mais il y en a certainement d'autres. Je crois que tous les enfants ont eu cette sensation un jour ou l'autre. Vous l'avez eu sans doute.
Mais oui, moi aussi, je l'ai eu, bien sûr. C'est comme ça que j'ai pu la transposer dans cette histoire. Et j'ai constaté, déjà, par les témoignages de différents lecteurs, que d'autres aussi ont eu ce fantasme-là. Mmh. Et je crois que cela vient du fait que c'est un acte de résistance, en fait, à un enfermement. Et comme tous les enfants sont... obligatoirement, enfin enfermés et en révolte, je crois que tous ont peut-être besoin de s'inventer autre chose.
Ils s'inventent une vie rêvée, mais qui est plutôt plus proche de leur réalité que la réalité qui leur est offerte. En fait, ça c'est très très frappant, parce que dans votre livre, au fond, ça serait la chronique d'une vie ordinaire d'enfant, mais cette vie ordinaire, elle devient très vite extraordinaire, parce que justement, elle y inclut ses fantasmes, elle y inclut des images dont les parents ne se doutent pas qu'ils la traversent.
Voilà, exactement. Oui, j'ai voulu écrire en laissant une grande part à l'inconscient de la petite fille et en essayant de retrouver ce qu'elle pouvait imaginer là. Et c'est vrai que ça donne une dimension supplémentaire à cette histoire. C'est pas simplement les fêtes, c'est aussi toute cette partie insoupçonnée, effectivement, de la part des parents.
Jean-Noël Pancrazy ou Joël Schmitt, vous êtes de très bons romanciers, mais vous êtes aussi critique dans des journaux importants. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce premier roman.
Le côté enfermement m'a évidemment frappé, et c'est surtout le côté de l'écriture, qui est souvent faite de phrases courtes, comme des couperets. Alors, le père est trancheur de bois. Il y a des couteaux assez souvent dans votre livre. Et donc, c'est ce côté couperet qui est comme une sorte comme un règlement de compte intérieur de la petite fille, sans aller aussi loin peut-être, mais et ce qui donne d'ailleurs un sentiment de malaise. On a l'impression que tout est tranché, qu'il y a un rituel aussi, les codes de la famille aussi sont complètement coincés, ne bougent pas, et que la petite fille elle se retrouve évidemment dans une maison, mais aussi dans tout le lever, le coucher, la mère qui est coquette, le père et la mère aussi qui se livrent devant elle, parce que c'est une scène aussi très forte à des choses qu'elle ne comprend pas et qui sont des scènes érotiques. En fait, tout ça me semble intéressant, parce que justement c'est tout le côté l'enfermement, mais dans un système. C'est pas seulement un enfermement vide, mais c'est un enfermement plein, dirais-je.
Oui, il y a un enfermement au sein même de cet enfermement. Chaque moment est ritualisé dans son propre enfermement, ce qui donne encore des coupures supplémentaires. Effectivement, tout est toujours taillé.
Jean-Noël,
c'est un regard très insipide, mais aussi elle n'arrive pas à ajuster tous les rôles que jouent les parents. Et tout à
l'heure, elle ne les comprend pas tous.
Les enfants. Les enfants s'imaginent toujours d'autres parents, parce que aussi les parents jouent le rôle des parents.
Oui.
Et parce qu'elle les voit dans l'intimité, souvent, et parfois aussi dans le rôle social.
Oui.
Elle les voit amoureux. Elle rêve souvent que son père vienne dans la chambre le soir avec un véritable amour sensuel, je dirais presque. Donc elle n'arrive pas à ajuster, mais comme tous les enfants aussi. Hein, intimité, rôle social.
Ça, on peut penser qu'il lui manque un peu une part physique de la part de ses parents, pour elle.
Ah oui, ça c'est ça.
C'est souvent le cas des enfants. Enfin, moi aussi, j'ai l'air de m'y connaître.
Mais je crois que nous avons tous été enfants.
Oui. Non, mais il semblerait justement que son corps demande peut-être un peu plus que ce que donnent ses parents.
Ah oui, oui, elle assiste à leurs ébats à eux, mais elle-même n'est pas, ne reçoit pas la tendresse qu'elle attendrait, bien sûr. D'ailleurs, il y a certaines pages vers la fin du livre où il y a ce désir que sa mère la prenne, la touche. Elle va dans les garde-robes pour essayer de oui. retrouver ce
Alors,
contact.
Alors il y a une belle scène là parce qu'elle est punie. Enfin, de temps en temps, quand on la punit, on la met dans un placard et elle se retrouve au milieu des robes de sa mère. Et là, effectivement, toutes ces odeurs.
Voilà, elle épouse le corps de sa mère.
Oui, c'est ça. Elle crée le corps de sa mère. Elle crée aussi tout un univers aussi fantasmatique dont qu'elle devine, mais qui n'est pas celui qu'elle croit.
Elle le fabrique, en fait, à partir des bras vides, des manches, à partir des robes. Oui, elle épouse le corps de sa mère. Je trouve que c'est très, très beau comme image. Et en fait, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle change le sens de ces placards qui d'habitude l'enferment. Elle va retrouver dans le placard autre chose que la punition.
Mais on peut penser que c'est, au fond, une enfance exemplaire, cette enfance, parce qu'elle est fille unique, hein, évidemment, on l'aura compris. Mais pour une enfance de la vie de ce qui sera un jour un écrivain, parce qu'effectivement, elle aura beaucoup rêvé dans cet espace avec ses deux parents qui ne la comprennent pas très bien, et justement toute la place qu'elle peut laisser à son imagination.
Oui, elle aura beaucoup manqué. Et je pense
on écrit par manque, on commence à écrire par manque.
Exactement. Elle aura beaucoup besoin de trouver à sublimer ce qui lui est donné. Donc je crois que c'est vrai que c'est un très bon tremplin à l'écriture, oui.
Très bien. Je ne sais pas si dans le suivant il y aura encore un enfant. Enfin, en tout cas, celui-ci nous engage à suivre votre œuvre avec beaucoup d'intérêt. Donc ça s'appelle Le Grand Menu, Corinne Hooks, et c'est publié aux éditions d'Olivier. Vous savez vous montrer assis, nous l'avons vu, mais vous, Joël Schmitt.